Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens, c'est Hugo pour Info Club Sandwich. Et aujourd'hui, à l'occasion de la Fête de la Science, nous recevons un ambassadeur de cet événement dans la région, le chercheur Alejandro Franco. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour rappel, la 28e édition de la Fête de la Science a commencé ce week-end et se tient jusqu'au 13 octobre, donc dimanche. Dans les Hauts-de-France, ce sont plus de 300 événements gratuits à découvrir dans une quarantaine de communes, des conférences, des expositions, des ateliers, des jeux, des débats ou encore des visites de laboratoires et d'entreprises. Alors, est-ce qu'on peut déjà rappeler, dans un premier temps, l'enjeu de la Fête de la Science, son intérêt pour le grand public ?
Alors, moi, je dirais un grand intérêt de la Fête de la Science, c'est de communiquer au grand public ce qu'on fait au laboratoire, en fait. Non ? Parce que finalement, donc, on fait de la recherche scientifique pour la société, donc pour impacter la société en termes de connaissances, mais aussi en termes d'améliorer la qualité de vie. Donc, voilà, c'est une occasion dans laquelle le grand public il peut rencontrer des chercheurs. Donc, ces chercheurs ils peuvent faire des démonstrations sur ce qu'ils font au laboratoire. Et voilà, donc, du coup, les gens auront l'occasion, une année de plus, de découvrir des choses qui voilà, ils sont. Généralement, ils sont dans les paillasses, enfermés dans les laboratoires, mais là, c'est l'occasion de les voir, quoi. Voilà.
Et ambassadeur, ça représente quoi ce titre pour vous ?
Et bon, c'est tout d'abord un honneur voilà, d'avoir été invité à être ambassadeur. Après, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, quoi, au-delà de... Bon, c'est un honneur, oui. Mais bon, c'est peut-être un rôle de promouvoir la science, d'aider à promouvoir la science, dans ces cas, dans la région de France. Et voilà, et aussi auprès des plus jeunes. Donc, stimuler les plus jeunes à s'intéresser un peu au monde scientifique, qu'il y a des choses intéressantes à faire. On a vraiment besoin de la génération des jeunes donc, à venir pour faire des progrès plus vite, quoi. Dans des domaines qui sont critiques, je peux citer un domaine que c'est le domaine dans lequel je travaille, c'est le domaine de l'énergie,
notamment. Oui. Alors, justement, vous êtes professeur à l'université Picardie-Jules Verne et chercheur au laboratoire de réactivité et chimie des solides. Alors, certains auditeurs, auditrices vous connaissent peut-être déjà puisqu'on vous avait reçu l'an dernier dans le cadre d'une autre émission, notre émission de vulgarisation scientifique. On peut rappeler déjà en quelques mots sur quoi portent vos recherches ?
Alors, moi, je travaille, donc, comme vous l'avez dit, au laboratoire de réactivité et chimie des solides, qui est un laboratoire mixte UPJV, l'Université Picardie-Jules Verne, SNRS.
D'accord.
Et donc, je travaille sur les batteries, donc les batteries rechargeables. Donc, c'est les mêmes batteries qu'on a dans les téléphones portables, dans les ordinateurs portables et aussi qu'on commence à voir dans les voitures électriques. Mmh. Et là, mes recherches ils portent sur une compréhension de comment ces batteries fonctionnent et sur la base de ces compréhensions, donc proposer des améliorations afin que les batteries deviennent plus autonomes et donc plus durables et aussi voilà, plus sûres. Voilà.
Ouais, donc le but, c'est d'optimiser, d'améliorer encore pour les batteries du futur, les prochaines générations, c'est ça
de, oui, de c'est ça. Et plus précisément, donc, je travaille donc, sur un domaine qu'on appelle la modélisation, donc, dans lequel on fait des simulations par ordinateur des comportements des batteries, aussi de comment on fabrique une batterie. Et ça, c'est un sujet très important. Donc au laboratoire, on a la chance d'avoir une plateforme de prototypage des batteries. Donc on a des appareils qui miment comment on fabrique des batteries dans l'industrie. Et donc moi de mon côté, avec mon équipe des doctorants, des post-docs, donc on travaille sur la simulation de ces procédés donc, en termes informatiques pour suggérer des améliorations à ces procédés, donc les rendre plus économes, et, voilà, plus bénignes en termes d'impact sur l'environnement et voilà, plus efficaces aussi, donc plus prédictifs. Parce qu'en gros, fabriquer une batterie, c'est comme faire un gâteau. Et si on se trompe des ingrédients ou on ne met pas la bonne quantité d'un ingrédient, à la fin de la chaîne, on peut obtenir des gâteaux qui sont ratés, en fait. Donc avec la simulation, on peut aider à trouver la bonne combinaison des paramètres, la bonne recette, en fait, pour avoir un gâteau réussi.
Ah, vous avez reçu l'an dernier une subvention de près de 2 millions d'euros de l'European Research Council. À quoi ça sert concrètement
c'est... Alors oui, c'est une subvention. Donc l'IRC, c'est le Conseil européen de la recherche. Et en fait, c'est une subvention de 2 millions d'euros qui me sert à en fait, faire de la recherche sur ce que je citais tout à l'heure, la simulation des, oui. des procédés de fabrication des batteries, avec toute une contrepartie aussi expérimentale, parce que quand on fait des modèles au niveau de l'ordinateur, il faut les valider. Il faut valider les prédictions qui sortent des modèles informatiques, donc on fait beaucoup de caractérisations aussi. On fabrique des batteries, on fabrique des électrodes, et après on compare les propriétés réelles avec les propriétés simulées. Et en termes moyens pratiques, donc ces subventions m'ont permis de recruter une équipe de doctorants et de post-docs, un ingénieur aussi qui est arrivé il y a deux jours au laboratoire. Et pour travailler sur tout ça et acheter aussi des appareils qui vont bien pour faire les expériences qui vont bien, donc en termes de caractérisation, et aussi des machines pour faire des calculs, parce que tout ça, on parle d'informatique, donc on a besoin de ce qu'on appelle des supercalculateurs pour pouvoir réaliser ces simulations. Oui. Et un autre point en fait, sur lequel on travaille maintenant très fortement, donc en relation à ces projets, c'est l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un sujet qu'on entend beaucoup. Donc déjà, quand on va à Google et on cherche un mot-clé, donc il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui nous aide à trouver les bons mots par rapport à ce qu'on cherche. Bon, là, on utilise l'intelligence artificielle pour traiter des données expérimentales, des données de caractérisation expérimentale, pour nous aider à trouver les bonnes combinaisons de matériaux pour avoir des batteries qui sont plus autonomes. Voilà. En gros, c'est aussi un axe qui commence à se développer fortement. Et voilà, et nous, voilà, on est acteurs là, dans ces domaines.
Alors, donc là, bah, vous nous expliquez un peu en quelques mots vos recherches. Est-ce que c'est facile justement de mettre des mots sur son sujet de recherche ? Est-ce que ça, vous avez dû vous entraîner ? Est-ce que c'est inné ?
J'aime beaucoup communiquer, en fait. J'aime beaucoup vulgariser sur la science et mes activités de recherche depuis, je pense, depuis l'adolescence. Parce que quand j'étais adolescent, donc quand j'étais au collège et au lycée, j'ai participé pendant tous les collèges et tous les lycées à ce qu'on appelle chez moi en Argentine, je suis d'origine argentine, et la foire des sciences, qui est en fait une compétition dans laquelle les différents collèges et lycées, donc ils proposent des projets dans des stands. Et moi, j'avais inventé une machine pour générer l'énergie électrique. Et donc, j'ai participé à pas mal de concours pour présenter ces machines à des jurys. Et là, c'est un exercice de communication parce qu'il faut arriver à vulgariser sur l'invention, parce qu'en face de vous, il peut y avoir des jurys qui ne sont pas experts en fait, du domaine. Et voilà, donc ça vient de loin, ça vient de mon adolescence. Et après, j'aime bien communiquer, j'aime bien présenter sur ce que j'ai fait. Oui, voilà.
On peut peut-être dire quelques mots justement de votre parcours. Là, vous évoquiez l'Argentine, voilà votre parcours universitaire et professionnel peut-être.
Alors, moi, j'ai fait mes études en Argentine comme physicien, donc physicien théoricien. Et à la base, je voulais travailler sur l'astrophysique et la cosmologie, en fait. Je voulais étudier l'origine de l'univers, les collisions entre galaxies, des choses comme ça, en fait. Aller regarder l'infiniment grand, en fait.
Oui.
Et après, j'ai eu l'occasion de venir en France, au COA, la Commissariat Énergie Atomique et Énergie Alternative, où j'ai fait un séjour scientifique d'une année à Grenoble, à la ville de Grenoble, donc sur les piles à combustible, donc qui est aussi un dispositif semblable aux batteries, mais qui fonctionne avec un gaz qu'on appelle l'hydrogène, qui est présent dans les étoiles d'ailleurs, dans le Soleil notamment. Et puis j'ai fait une thèse toujours au COA sur la même thématique, et après j'étais recruté comme ingénieur chercheur donc au fin 2005, et j'ai travaillé comme ingénieur chercheur permanent au COA jusqu'à fin 2012, début 2013. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de venir à Amiens, et d'abord comme visiteur scientifique, et ensuite je me suis présenté en concours pour devenir prof, donc en 2013. Et j'ai eu ces concours, donc je suis devenu prof, et depuis 2013, donc je suis professeur, comme vous l'avez dit, donc, ici à l'UPJB ou à l'ERCES. Voilà.
Alors justement, comment vous partagez votre temps entre les cours que vous donnez et donc vos recherches ?
Alors, ça dépend des années. Moi, je dirais pour mon cas particulier, moi, je dirais que 2013, 2014, 2015, donc c'était 3 années où j'ai eu un service complet. Ça veut dire qu'on est professeur, donc on doit enseigner 192 heures par an.
D'accord.
En fait, c'est le temps de présence en face des étudiants. Je dirais que la première année, c'était dur parce qu'il fallait préparer les cours. Les cours, j'avais jamais fait au niveau universitaire. Donc voilà, j'avais en Argentine enseigné, pour des TD, des choses comme ça. Mais là, c'était des cours magistraux. Mm-hmm. Donc c'était une année où j'ai eu quand même pas mal de préparation à faire. Mais après, 2014-2015, donc, ça allait mieux parce qu'il y avait déjà une base, quoi. Et depuis 2016, je suis membre de l'Institut universitaire de France qui me donne une décharge assez significative. Donc voilà, et j'ai 62 heures à donner en fait par an. Et depuis mon obtention de l'ERC, de cette subvention, donc encore moins, donc là je suis à 24 ou 28 heures par an. Donc, du coup, oui, j'ai beaucoup de temps pour faire la recherche. Et après, les cours, ils sont plus centrés au niveau master. Donc, ça veut dire des étudiants qui connaissent déjà des bases du domaine, donc la chimie, notamment la chimie appliquée. Et du coup, c'est des cours dans lesquels on va parler de manière plus proche par rapport aux activités de recherche qu'on mène. Donc, j'aime beaucoup justement ramener aux étudiants des exemples de la recherche quotidienne pour illustrer à quoi ça sert, à quoi ça peut servir tout ce qu'ils sont en train d'étudier s'ils choisissent. Donc, on se voit. Qui peut être d'industrie aussi, parce qu'on fait la recherche aussi au niveau industriel, bien sûr.
Voilà. Donc, ça vous plaît toujours de transmettre comme ça aux étudiants?
J'adore. Moi, je dirais qu'un un instant que j'adore, c'est voir les yeux des étudiants qui brillent. En fait, que c'est comme des larmes quand ils découvrent un truc waouh. Wow, okay? J'aime bien faire ça. En fait, moi, j'ai une théorie. Et en fait, mes créneaux de cours, c'est 2 heures en général pour les cours magistraux. Et j'ai une théorie, c'est que c'est possible de garder l'attention d'un étudiant pendant 2 heures non-stop. Parce que et justement, c'est ce qui arrive quand on voit un film. Quand on regarde un film, bon, moi je pense au Seigneur des Anneaux, que c'est des films qui duraient 3 heures et demie.
Oui.
Si on aime les thèmes, si on aime les thèmes des films, on ne décroche pas. On a pendant 3 heures et demie, c'est prenant. Moi j'ai la même philosophie en fait. J'essaye de faire en sorte que mes cours soient prenants pendant 2 heures. Donc j'ai fait des cours très, très interactifs.
Il faut que ça soit rythmé, il faut que ça soit interactif. Voilà,
et j'intercale au-delà de tout ce qui est l'aspect technique des cours. Donc j'intercale des aspects philosophiques aussi, des philosophies sur la vie, la philosophie de la science, des mystères scientifiques qui ne sont pas encore résolus. Et voilà, et après beaucoup de jeux aussi, des jeux sérieux, donc avec la technologie réalité virtuelle, qui d'ailleurs c'est une technologie qui va être exposée dans la fête de la science et jeudi prochain à l'UFR des sciences, donc au 33 rue Saint-Leu. Donc on aura un stand où on va faire des démonstrations avec un outil de réalité virtuelle, où les gens ils vont avoir l'occasion de donc manipuler des batteries dans un labo virtuel, et aussi de naviguer à l'intérieur d'une batterie, en fait, devenir infiniment petit et naviguer au sein des matériaux des batteries. Donc ils vont pouvoir comprendre de quoi ils sont faits des batteries. Donc en fait, voilà.
C'est intéressant parce que vous souhaitiez plus jeune travailler sur l'infiniment grand, et là vous travaillez en partie sur l'infiniment petit.
Voilà. Après c'était une opportunité, comme je vous disais, en fait au collège et lycée j'avais inventé une machine qui était liée à la génération d'énergie électrique.
Oui.
Et bon, après mes études en physique m'ont fait que oui, je voulais faire quand même de l'astrophysique et tout ça. Mais après, quand je suis venu à Grenoble, donc la première année c'était un projet lié à l'énergie, et on m'a proposé une thèse sur l'énergie, ça m'intéressait, et voilà, ça a été le point d'inflexion, donc qui m'a amené de l'infiniment grand vers l'infiniment petit. Mais à mon avis, un continuum entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, en fait, donc ça fait partie tout du même univers, en fait, donc la même énergie qu'on stocke dans une batterie, en fait, c'est la même énergie qui est là-haut, en fait, qui est au niveau des étoiles, c'est juste que ça manifeste d'une manière différente, voilà.
Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on écoute suffisamment les scientifiques? Je pense, voilà, on est dans une époque où il y a beaucoup de fake news qui circulent, notamment sur le climat, mais sur plein d'autres sujets. Est-ce que vous avez l'impression qu'on écoute suffisamment justement les scientifiques, que la parole des scientifiques n'est pas déconsidérée?
Alors, moi je dirais que c'est difficile parce que bon, maintenant il y a un développement énorme de réseaux sociaux, notamment, donc où les fake news ils peuvent circuler très vite, ils peuvent prendre une grande place, et du coup, oui, après... Et si on n'est pas expert dans un domaine spécifique, donc c'est très difficile de donner une idée si les news qu'on est en train de lire elle est correcte, elle est pertinente ou pas, quoi. Moi, je dirais que ça, c'est la contrepartie des progrès techniques. Bien sûr, les réseaux sociaux, ils sont super bien pour communiquer rapidement des choses vraies, mais aussi bon, des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, oui, après, il y a des canals pour communiquer. Je pense que la fête de la science est une opportunité superbe pour que les scientifiques puissent exposer les vraies news. Voilà.
Voilà, si on a des questions, des interrogations,
voilà, exactement,
sur des domaines.
C'est un forum justement où les gens peuvent venir et justement ils peuvent venir peut-être avec une liste des news qu'ils ont trouvées sur Internet. Ils peuvent demander aux scientifiques sur place, alors qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que à votre avis c'est vrai ou pas. Voilà, après il n'y a pas de réponse universelle, quoi, donc il y a même des points qui sont encore sur des bases scientifiques, donc par rapport au réchauffement climatique, il y a certainement un impact de l'homme, en fait, des activités humaines sur l'augmentation de la température sur Terre, mais il y a aussi des scientifiques, une fraction, qui disent oui, ça c'est un processus naturel, le réchauffement climatique. Après, par rapport à tout ce qu'on a pu enregistrer en fait, dans l'histoire des évolutions de température sur Terre, là on voit que c'est anormalement haut, donc du coup, il est fort probable que ça soit lié aux activités humaines. Voilà. Mais il y a toujours des choses qui sont sujets à débat, en fait. Voilà.
En tout cas, c'est quand même très enrichissant de se tenir au courant, justement, des débats pour se faire sa propre idée.
Exactement, exactement.
Et donc, ça sera l'occasion à cette 28e édition de la Fête de la Science, donc d'échanger avec des scientifiques. Alors, je rappelle, la 28e édition, c'est jusque dimanche prochain. Plus de 300 événements gratuits dans les Hauts-de-France. Conférences, expositions, ateliers, jeux, débats, visites de laboratoires et d'entreprises. Alors vous pouvez retrouver tout le programme sur le site d'Ombélie Science ou d'Ecoscience également, ou encore réécouter notre interview la semaine dernière avec Aurélie Fourré, chargée de communication d'Ombélie Science, qui donc détaillait le programme. Ben merci Alejandro Franco.
Merci beaucoup pour l'invitation, merci, c'est un plaisir.